Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. On est très content de vous retrouver, hein, chères auditrices, chers auditeurs, comme chaque vendredi en direct à 18h sur micro-rebelle.fr. Et on est très content que nos amis de la FRANF, hein, la Fédération des radios associatives du nord de la France, rediffusent cette émission. Alors c'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois, qui nous rediffuse chaque vendredi à 20h, chaque samedi matin à 7h30 et chaque dimanche à 14h. Et merci également à Radio Plus, hein, de la FRANF également, Radio Plus 104.3 à Douvrin, qui rediffuse cette émission chaque mardi à midi. Alors Micro Rebelle Hebdo, comme chaque semaine, c'est de l'actualité locale, hein, des reportages sur le vif réalisés sur notre territoire. C'est également l'agenda social et culturel. Aujourd'hui, on va également vous proposer la chronique d'Olivier. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Lucien, bonsoir Luc.
Oui, j'ai oublié de le préciser, Luc est à la technique. Bonsoir Luc.
Ouais, je suis tout à fait là. Bonsoir à toutes et à tous.
Donc on va avoir ce type de reportage. On va également vous proposer un extrait de réalisé durant nos ateliers, nos clubs radio, nos ateliers radiophoniques. On vous en parlera tout à l'heure. Hein. Il sera question de Sonomaton. Et puis un reportage peut-être un petit peu plus approfondi, hein, comme chaque semaine maintenant depuis le mois d'octobre, sur les retraites, hein, avec un invité dont on vous parlera tout à l'heure. C'est Luc qui a réalisé ce reportage. Alors sans attendre, l'agenda social et culturel. On va démarrer par le samedi 12 octobre. Stop à l'impunité des multinationales. Donc ce titre, qu'est-ce que ça signifie? C'est une campagne de l'association Attaque Artois-Ternois. Et c'est ce samedi 12 octobre de 10h à 12h30 à Arras, avec des rendez-vous devant la BNP, devant la station Total, qui sont deux multinationales qu'il convient effectivement de pointer du doigt, notamment sur la question de la fiscalité. Rendez-vous également sur le marché d'Arras, donc samedi 12 octobre, stop à l'impunité des multinationales, de 10h à 12h30 à Arras.
Une autre initiative d'Attaque, mais Attaque Métropole cette fois, et les Amis du Monde Diplo. C'est le lundi 14 octobre et ça s'intitule « L'impunité sociale, fiscale, environnementale des multinationales, la part des Françaises ». C'est donc un débat avec Dominique Plion, qui est universitaire, économiste et ancien porte-parole d'Attaque France. Quelle justice sociale, climatique, fiscale ? Alors que les profits des grandes entreprises françaises, les dividendes et les rémunérations des hauts dirigeants s'envolent, quand les effectifs mondiaux stagnent et qu'ils diminuent fortement en France. Alors que les émissions de CO2 des sites les plus polluants du pays ont augmenté de 5% en 2017, que les entreprises du CAC 40 ont plus de 2500 filiales dans les paradis fiscaux et paient moins d'impôts aujourd'hui qu'en 2010. Ça se passe à l'ESJ, l'école supérieure de journalisme, 50 rue Gauthier de Châtillon à Lille, lundi 14 octobre à 18h30.
Agenda mardi 15 octobre, Pileta Remix. C'est du théâtre sonore et visuel à partir de 8 ans. Donc ça concerne tout particulièrement nos auditrices, nos auditeurs, hein, qui aiment la radio. C'est au Métaphone, au 99 bis à Wany. Donc Pileta Remix, c'est les coulisses d'une fiction radiophonique en suivant les aventures de la jeune intrépide Pileta, partie braver un monde inconnu pour sauver sa grand-mère malade, mardi 15 octobre au Métaphone 99 bis à Wany. Je n'ai pas l'horaire, il me semble que c'est 18h30.
18h30 ou 19h, et il y a aussi dans la journée des représentations. Je crois que c'est pour les scolaires. Enfin,
à suivre donc.
Jeudi 17 octobre, la dépendance psychologique au numérique. C'est un apéro-débat sur l'intelligence artificielle, les addictions et la psychologie. Tant d'échanges ouverts et sympathiques autour des enjeux du numérique, où il sera traité de la pollution numérique et de son impact social. La soirée sera animée par Marion et Julien de l'association ANIS, afin de mettre ensemble en perspective témoignages, compréhension des technologies et pistes d'action. Il y aura également des éclairages de Simon Hay, blogueur sur le www.denem.org, qui parlera de cyberpsychologie, du bilan de la prévention en la matière et d'éducation. C'est au Moulin de Oisem, 30 rue des Meuniers à Lille, donc jeudi 17 octobre, 18h30. L'entrée est libre, quelle que soit votre expérience du numérique.
Et on termine cet agenda le lundi 21 octobre par la réunion mensuelle des objecteurs de croissance du Pas-de-Calais. Donc ça se passe au LAG, hein, comme d'habitude pour les objecteurs de croissance, au LAG 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Et c'est de 19h à 20h30. La réunion est publique, ouverte à toutes et à tous. Donc cet agenda court, hein, on est à une semaine des congés de la Toussaint, donc c'est en général une semaine où il y a moins d'initiatives sociales et culturelles à présenter. On va poursuivre par l'actualité et la revue de presse. Et donc dans l'actualité, ce qui retient notre attention cette semaine, c'est l'actualité internationale et notamment l'invasion par l'armée turque du Rojava. Le Rojava, c'est cette région kurde au nord de la Syrie. Depuis 2012, cette région jouit d'une indépendance de fait et d'une administration autonome. C'est une expérimentation politique unique qui s'y déroule, basée sur la démocratie directe, les assemblées locales, le féminisme, l'écologie et la cohabitation des différents peuples. Malgré toutes ces imperfections, cette expérience représente une réelle alternative et mérite d'être défendue. Depuis 2013, par ailleurs, les combattants et combattantes kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes ont été au premier plan de la guerre contre Daesh. Cette semaine, avec le feu vert des États-Unis, l'armée turque a débuté l'invasion du Rojava. En 2018, l'armée turque avait également envahi le canton d'Afrin, toujours au Rojava, cette fois-ci avec le feu vert de la Russie. Le résultat, ça avait été des destructions, des massacres et un nettoyage ethnique. On peut craindre la répétition de ce scénario. Peut-on imaginer que le Rojava, où la gauche kurde a mis un coup d'arrêt à Daesh, soit occupé par l'armée turque qui a parrainé Daesh pendant des années? Pendant 5 ans, la gauche kurde a profité de l'équilibre entre les impérialismes rivaux que sont les États-Unis et la Russie. Cet équilibre est aujourd'hui rompu et la gauche kurde est désormais seule face aux tanks et à l'aviation turque. Les Turcs veulent occuper le Rojava au titre d'une zone tampon, soi-disant pour des questions de sécurité. En fait, Ankara compte y installer une partie des 3 millions de réfugiés syriens et syriennes qui vivent sur son sol. Cette entreprise ne déplairait sans doute pas à Bachar el-Assad, en ce sens qu'elle rendrait les Kurdes minoritaires au Rojava en les expropriant de leurs terres au profit de familles arabes dans une parfaite logique colonialiste. Ainsi, une fois de plus, le peuple kurde se trouve victime des sordides calculs des tyrans de cette région. Au-delà de ces aspects, on peut également signaler que l'invasion turque vise également à prendre le contrôle des ressources naturelles du Rojava. C'est par exemple le cas de l'eau, de l'Euphrate, ainsi que du pétrole. Quelques mots maintenant concernant le rôle des puissances occidentales. Si l'armée turque s'autorise à bombarder le Rojava, c'est que les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres États le veulent bien. La France est d'ailleurs complice, puisque l'entreprise Thales fournit du matériel optique pour les drones turcs et réprime le mouvement kurde en France. D'ores et déjà, la solidarité internationale s'organise et plusieurs mobilisations sont prévues dans plusieurs villes de France. Actualité locale maintenant, au travers de la presse locale, on revient sur l'incendie de l'usine Lubrizol que nous avons évoqué la semaine dernière dans Micro Rebelle Hebdo. Ça se passe pas très loin de chez nous, à Douai, avec ce titre de La Voix du Nord, « Incendie de Rouen », un éleveur contraint de jeter 10 000 litres de lait. Et avec ce sous-titre, exploitants agricoles à Douai, Clotilde et Frédéric Carré ont dû renoncer à 10 000 litres de leur lait, impropre à la consommation, après le passage du nuage de fumée de l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol de Rouen. L'exploitant s'est ainsi confié à la Voix du Nord. Les services de l'État sont venus, mardi, procéder à des prélèvements d'échantillons de notre lait. Ils cherchent à détecter la présence éventuelle de dioxines et métaux lourds, raconte l'éleveur passablement contrarié. Un troisième prélèvement doit être effectué ce lundi, sachant qu'il faut attendre une semaine pour obtenir un résultat. Les laiteries, elles, nous ont laissé tomber. Elles nous ont dit que notre lait pouvait contaminer leur cuve et qu'elles ne viendraient plus le chercher avant de connaître les conclusions des analyses. Le problème avec cet arrêté, c'est qu'il ne dit pas comment détruire la production, ni qui doit s'en charger. On est dans le flou. Sur la même page, La Voix du Nord évoque le cas d'un agriculteur bio. Élie Carruyer, maraîcher bio, voisin de la ferme des Carrés, a lui aussi reçu la visite des services de l'État la semaine dernière. Ils m'ont demandé ce que j'avais récolté depuis l'incendie. Ils ont emporté des échantillons de pommes de terre que j'avais stockés après le passage du nuage de fumée, raconte l'intéressé. Les légumes sous serre et ceux qui poussaient sous les voiles de forçage ne leur posaient pas problème. Entre le stock de fruits en question et ceux qui sont toujours sur ses pommiers actuellement, l'exploitant estime à environ une tonne la quantité de pommes qui se retrouvent menacées. Je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. J'attends les résultats détaillés des analyses. J'ai peur pour l'image de mon exploitation et que si quelqu'un tombe malade, on pense que c'est à cause de moi. Fin de citation. Alors que de nombreux exploitants et exploitantes agricoles, ainsi que de nombreux habitants et habitantes se mobilisent pour le développement des circuits courts alimentaires, on voit comment une catastrophe, telle celle de l'usine Lubrizol, va créer un doute sur ses productions locales et favoriser les productions lointaines. Il est réellement temps que toutes et tous, nous nous occupions de tout ce qui se produit sur nos territoires, aussi bien les aspects alimentaires que les aspects industriels. Après les activités industrielles, justement, on va maintenant évoquer les zones commerciales et logistiques à propos de l'extension de la zone de l'Alouette au nord de Liévin, au bord de la commune d'Aixenoulette. C'est dans l'avenir de l'Artois et ce sont justement des Aixoises et des Aixois qui se mobilisent. Extrait. Ils sont 13 autour de la table, représentant une trentaine d'Aixois, tous d'accord. Ils ne veulent pas d'une éventuelle extension de l'Alouette 2020 sur leur commune. Ils prennent l'esprit village d'Aixenoulette, ou en tout cas, ce qu'il en reste. On veut se servir de la dernière ligne droite de l'enquête publique du Stradet, un projet d'aménagement du territoire cohérente avec l'environnement à l'échelle régionale, pour faire part de nos craintes aux commissaires enquêteurs, explique Véronique Broutin. La pollution, le groupe d'Aixois qui a monté une page Facebook, Extrême Urgence, n'en veut pas plus. Déjà, pour l'arrivée des entreprises en construction actuellement, il va y avoir de nouvelles entrées vers ces entreprises à Aixenoulette, dans le chemin de Lens pour les véhicules légers. Il y aura 2100 véhicules légers en plus en circulation et 810 poids lourds, mais on ne sait pas par où ils pourraient passer, assure Franck Lecreux. Des métiers sans avenir. On se soucie surtout de l'entreprise foncière. C'est pour cela que nous allons nous rendre à Oigny, voir le commissaire enquêteur, pour lui faire part de nos craintes. Et l'enquête publique se termine le 16 octobre. C'est pour cela que nous devons faire vite. Les Aixois, qui veulent garder des espaces verts et des champs dans leur commune, ont fait appel à Marine Tondelier, élue écologiste à Hénin-Beaumont, qui a milité contre l'implantation d'une troisième extension d'une entreprise de logistique. Elle leur assure que les métiers de logistique ne sont plus un métier d'avenir. L'argument de créer des emplois ne fonctionne pas. Le groupe devrait voir le commissaire enquêteur mercredi à Oigny et surtout informer les autres habitants sur cette enquête publique. Alors on va terminer cette revue de presse avec La Voix du Nord de nouveau et ce titre. Le World Forum Lille demande à chacun de déclarer un engagement pour changer le monde. et les explications du journal. Je cite « Un nouvel appel à l'engagement individuel vient d'être lancé par le réseau économique Rêve 3 qui déploie des projets de transition écologique dans les territoires de la région. Une dynamique qui se tourne à présent vers le grand public en lui demandant de prendre des engagements personnels à l'occasion du World Forum de Lille au Théâtre du Nord à Lille. Engagez-vous pour changer le monde en Hauts-de-France » est-il indiqué sur la première page du site www.rêve3-egoton.fr. S'engager à planter quelques arbres, s'engager à aller travailler à vélo, à économiser l'eau, à cultiver sans pesticides de synthèse, à installer des panneaux solaires chez soi, à promouvoir le télétravail, à rouler en voiture hybride ou électrique, à consommer local, à faire ceci, à faire cela. Fin de citation. On ne peut s'empêcher de s'interroger à la lecture d'un tel article. Le World Forum de Lille, c'est un réseau économique patronal. En demandant au grand public de s'engager à un niveau individuel, un peu comme il y a quelque temps, en demandant aux gens de ne pas laisser couler le robinet d'eau en se brossant les dents, est-ce que les patrons, les dirigeants économiques, ne chercheraient pas à masquer leurs propres responsabilités dans le gaspillage, le productivisme et autres dégâts écologiques? La question mérite d'être posée. Quant à changer le monde en Hauts-de-France, il y aurait, on peut en être sûr, beaucoup à dire concernant la responsabilité patronale régionale. Merci d'avoir écouté cette revue de presse et ces quelques éléments d'actualité. Un peu de musique, Luc ?
Un petit peu de musique, Le Grand Large. C'est l'un des titres d'un album éponyme de la Cantine Boga, album sorti en 2015.
On voit nous échapper. Faudrait pas oublier de s'arrêter, de s'attarder. Ouh, j'ai trouvé mon paradis ici, un rivage ensablé qui rêve d'une vie marine. Je crois pourtant s'accommoder le coquillage échoué d'un arrière-goût salé. Pas besoin d'être exigeant, c'est tellement séduisant de déposer sa route au pied de l'océan. Comme je l'aime, ce front si insolent, mon petit bout du monde fier, où s'impriment les pas des oiseaux et du temps. Je m'y suis essayé, croyant les miens indélébiles. La mer m'a rappelé ma condition fragile. J'ai trouvé mon paradis ici, un rivage ensablé qui rêve d'une vie marine, qui croit pourtant s'accommoder le coquillage échoué d'un arrière-goût salé. Pour mieux se retourner, redevenir grand. Pas besoin d'être exigeant, c'est tellement séduisant de déposer sa route au pied de l'océan. se risquer au flirt avec l'écume pour mieux se rapprocher de ce qui nous échappe d'habitude.
La chronique à deux coups. Olivier, la parole est à toi.
Merci Luc. Donc, le thème de cette chronique, ce sont les suicides à la poste. Alors tout d'abord, c'est quoi la poste aujourd'hui ? La poste est une entreprise française principalement en tant qu'opérateur de services postaux. Courrier, colis, banque, assurance et téléphonie mobile. Commerce en ligne également. La Poste est aujourd'hui une entreprise à capitaux publics détenue par l'État français. La Poste et toutes ses filiales forment le groupe La Poste. Alors brièvement un petit historique. Avant l'ouverture à la concurrence du secteur postal, dans les années 2000, La Poste avait le monopole de l'acheminement et de la distribution du courrier en France, ce qui en fait l'opérateur courrier historique. Aujourd'hui, le groupe La Poste est le premier opérateur de courrier européen. Avec ses filiales, elle est le deuxième opérateur du colis express en Europe. De plus, elle est une importante banque de détail française, la Banque Postale comptant 10,7 millions de clients, 17 000 points de contact. Bref, La Poste se porte bien, même très bien. Avec ses 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, ce qui est pas mal du tout. Donc c'est un groupe qui se porte. Ce groupe se porte tellement bien qu'en 2 ans, près de 50 salariés de La Poste se seraient suicidés à cause de leurs conditions de travail. Pourtant, les Français aiment leur poste. Le facteur est un acteur incontournable entre le service rendu et le lien social exercé. Mais que se passe-t-il exactement à La Poste ? D'après l'Est républicain, qui nous rappelle qu'en 2016, Charles Griffon, 53 ans et père de 2 enfants, était un facteur à l'ancienne. Il aimait prendre le temps de discuter en chemin et faire sa tournée, déguisé en Père Noël, chaque 24 septembre. Depuis son contrôle en 2014, ils lui ont dit « Monsieur Griffon, vous avez mis trop de temps. » Ça a commencé, et puis après, ils lui ont mis 250 boîtes en plus, et il a pété les plombs, déplore son père. Selon la Confédération nationale du travail, qui nous rappelle, un cadre de La Poste s'est donné la mort dimanche 11 mars devant le centre de distribution de courrier de Trégunt, dans le Finistère. C'est le 2e suicide d'un salarié du groupe en 10 jours. Le 29 février, un jeune cadre s'était défenestré à Rennes. En revenant sur son lieu de travail pour se donner la mort, le message est clair. C'est un acte réfléchi. Il a envoyé au syndicat un courrier pour expliquer son geste. La Poste ne peut pas dire « on ne savait pas ». Non seulement des collègues inquiets de son état avaient averti La Poste, mais encore il y a quelques mois, le quadragénaire avait alerté le président de La Poste de ses difficultés depuis la réorganisation du service courrier. Ce cadre a été contestataire sur les méthodes qu'on lui demandait de mettre en œuvre. Il a été cassé par La Poste. Les suicides de cadres à La Poste, le 29 février à Rennes, à Trégunt, dans le Finistère, étaient hélas inéluctables, estime Dominique Decèze, auteur de La Machine à broyer et de Gare au travail, malaise à la SNCF. La réorganisation en cours à La Poste reproduit une méthode qu'on a connue à France Télécom il y a 20 ans et dans d'autres entreprises comme Renault. Les mêmes méthodes produisent les mêmes effets. La privatisation, la pression du chiffre, des objectifs de rentabilité entraînent un renoncement en termes de sens, de valeur et d'identité. S'agissant du dialogue social, de la formation et de l'accompagnement, les entreprises ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. On est en train de refaire du taylorisme sur de la matière humaine. Or, l'humain ne peut pas s'adapter à des périodes de tant de minutes de travail. Face à la souffrance, la réponse de la Poste au syndicat, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Sans commentaire. Merci et à la prochaine.
Tu l'as dit, sale temps pour les facteurs. À présent, une actualité propre à Micro Rebelle. Nous l'avons déjà dit à l'antenne, Micro Rebelle anime des ateliers radio dans diverses structures. Et c'est dans ce cadre que nous participons au défi famille à énergie positive. Il s'agit d'un dispositif qui permet à des familles de participer à des ateliers pour favoriser les économies d'énergie. Nous intervenons, nous, pour que ces moyens et techniques qui tendent vers la sobriété énergétique soient transmis publiquement via la radio. Lors d'un repas avec tous les participants et participantes, nous avons installé un sonomaton pour recueillir quelques astuces et éco-gestes à faire à la maison. Juste avant ça, Marianne Thomas, qui coordonne le défi, nous explique son fonctionnement.
Associations, CCAS, travailleurs sociaux de différentes collectivités. Nous organisons régulièrement des ateliers sur les astuces pour faire des économies d'énergie. Mais finalement, on ne sait jamais, lorsque les familles rentrent chez elles, si elles appliquent ces bons éco-gestes. Or, avec le défi, on a moyen de mesurer l'application de ces éco-gestes parce que les familles viennent avec leur facture d'énergie N-1. Nous les rentrons sur un site internet et tout au long de l'année du défi, elles font des relevés de leur compteur et ainsi on peut comparer avec la consommation de l'année d'avant. C'est motivant parce que on se rend compte qu'en appliquant des gestes très faciles qui ne nuisent pas au confort de vie dans son logement, eh bien on arrive à faire des économies. Alors, on n'est pas toujours remboursé par l'opérateur, hein, mais malgré tout, ça permet de stabiliser les factures. Et avec les énergies qui ne cessent d'augmenter, c'est déjà un sacré défi de ne pas voir sa facture augmenter. Ce qu'on peut retenir aussi des ateliers, c'est la convivialité, hein, parce que bien sûr, il y a un intervenant qui vient pour nous expliquer le fonctionnement d'un thermostat, d'un compteur, mais on ponctue aussi ces rendez-vous d'ateliers autour des produits ménagers. On fabrique sa lessive ou son spray dépoussiérant, par exemple. Et à la demande d'un groupe qui participe maintenant pour la troisième année, on a intégré la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui permet encore de faire des économies en utilisant ce qu'on a dans ses placards, parfois en récupérant des légumes ou des fruits dits un peu moches, qui finalement transformés feront un excellent repas.
Petit rappel, si vous avez un radiateur électrique, il n'est inutile de le mettre au maximum, il ne chauffera pas plus vite, mais surtout il ne se coupera pas. Petit rappel, 1 degré, c'est 7% de consommation en plus.
Je pense qu'il serait bien de faire des économies d'eau en récupérant la dernière eau de rinçage, par exemple, de la machine à laver, pour nettoyer certains entretiens ménagers. Pour les économies de l'alimentation, pourquoi pas récupérer le pain pour faire du pain perdu, pouting, chapelure, tartines grillées, des baguettines, etc. Avec les surplus des repas, nous pouvons les réutiliser pour faire d'autres recettes au lieu de les jeter, ce qui nous fait faire des économies.
Quelques petits conseils pour économiser l'énergie en électricité. Ne pas allumer les interrupteurs dans plusieurs pièces en même temps. Pensez à éteindre vos appareils, car même en veille, ils consomment de l'énergie. Réglez et baissez vos chauffages le jour et la nuit. Isolez la maison avec double rideau, etc.
Concernant les astuces à transmettre pour faire des économies d'énergie, j'en ai une que j'utilise toujours hein, pour les économies d'électricité. Je mets toujours un couvercle sur mes récipients pour que ça chauffe plus vite. Concernant le ménage, ben je fabrique ma lessive moi-même. Ça revient beaucoup moins cher et c'est tout aussi efficace.
Petites astuces, éteignez les lumières en sortant de la pièce et surtout, ne pas laisser votre chargeur branché. Et oui, cela consomme.
Je vais vous donner quelques petits conseils pour économiser l'énergie d'électricité. Je vous propose les multiprises éco. Cela vous permet de brancher plusieurs appareils en même temps et de tout éteindre en appuyant sur un seul bouton.
J'ai participé au défi familial à énergie positive. On y a appris beaucoup de choses, comment faire des économies, éteindre tout ce qui est en veille, etc. quoi. Éteindre les portables, pas laisser brancher les prises. C'était intéressant.
La 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 la
êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà. Pour cette seconde pause musicale, on était une nouvelle fois avec la cantine Boga, ma petite est comme l'eau. On va passer à toute autre chose pour un système universel des retraites. Tel était le titre du rapport qui contenait les préconisations de Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Même si cette réforme est pour l'instant repoussée après les élections municipales par le gouvernement, elle a animé cette rentrée des mobilisations syndicales avec pour point d'orgue de la contestation la suppression des régimes spéciaux. Une réforme des retraites est-elle justifiée? Qu'impliquerait un système unique? Qu'est-ce que l'âge pivot? Bascule-t-on vers un système par capitalisation? Autant de questions que nous avons posées à Laurent Cordonnier, économiste, enseignant à l'université de Lille. Et pour entrer dans le vif du sujet, quelques chiffres sur notre système des retraites.
Sur l'importance déjà de ce que représente le système des retraites dans l'ensemble des revenus qui sont distribués au niveau national, pour donner une indication, parlante ou pas, mais il n'y en a pas de meilleur, ça représente à peu près 14% le montant des retraites versées ou des prélèvements effectués sur nos revenus, puisque les prélèvements servent à payer les pensions, ça représente à peu près 14% du produit intérieur brut annuel, c'est-à-dire de la richesse créée annuellement. Ce qui n'est pas finalement énorme compte tenu du fait que bien maintenant on s'approche vraiment d'un ratio ou d'une proportion de moins d'1,5 travailleur par retraité à financer. Bon, ça veut dire que l'effort qu'on doit faire, chacun d'entre nous, annuellement pour payer les cotisations retraite représente en gros 14% de nos revenus globaux. Alors, si on traduit ça en milliards d'euros, ça fait 365 milliards d'euros par an cotisés et versés aux retraités.
Si je pose cette question des chiffres, c'est en fait pour savoir s'il y a une justification à une réforme éventuelle. Autrement dit, est-ce que c'est parce que les retraités coûtent cher ou ce genre de phrase qu'on a l'habitude d'entendre, qu'il faut faire une réforme.
En réalité, c'est une réforme qui s'annonce ou qui s'avance, non pas comme une réforme au départ pour rééquilibrer les comptes, parce que les comptes des différents régimes de retraite en moyenne étaient sur une trajectoire d'équilibre, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu un grand nombre de réformes dans les années passées qui avaient précisément pour but de rétablir cet équilibre. Donc nous n'étions pas du tout sous une urgence de rétablir l'équilibre des comptes. Et on pourrait dire que c'est la première fois que se présentait l'idée de réformer un peu à froid le système pour en faire, et c'est ce que le gouvernement prétend réaliser, pour en faire un système plus équitable. D'accord. Et c'est pratiquement son unique but, un système plus équitable en procédant à une réforme de retraite par points. Ouais, c'est ça l'essentiel en fait de cette réforme. Alors il est vrai que les dernières projections sur l'équilibre des régimes de retraite montrent qu'il pourrait tout de même exister un déséquilibre financier réel, mais pas inquiétant du tout, dans les 5 ou 6 prochaines années. Hein, il pourrait y avoir un trou de l'ordre de 5 milliards par an dans le fonctionnement du régime, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport aux 365 milliards dont on parlait tout à l'heure. Et donc il y a une tentation en fait aussi du gouvernement de dire à l'occasion de cette réforme, il faut aussi traiter cette question du déséquilibre financier, ce qui est peut-être la pire des mauvaises idées. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, parce que le gouvernement aurait sans doute tout intérêt à bien distinguer une réforme qui peut être faite au nom, on peut en discuter aussi, hein, mais de l'équité, et une réforme qui serait faite au nom des grands équilibres. Je crois que là, le déficit qui est annoncé pour les prochaines années ne devrait pas en fait venir polluer le débat ou la discussion. Il y a bien d'autres choses à discuter en fait. Le régime universel, qui plus est, qui fonctionnerait à la base, annoncé par le gouvernement, sur tout le monde soumis à la même règle, c'est-à-dire que vos droits à la retraite seraient strictement proportionnels à ce que vous avez cotisé. Un euro cotisé, dit le gouvernement, et c'est le but d'une réforme par points, 1 euro cotisé donne droit, quelle que soit la personne qui a cotisé, au même taux de conversion en retraite une fois qu'on prend sa retraite. Donc c'est une réforme qui est annoncée comme étant universelle et équitable. Alors équitable dans un sens très particulier, dans le sens où votre retraite serait strictement proportionnelle au montant des cotisations que vous avez versées durant toute votre carrière, et qui ne poserait donc plus de calcul, de problème de calcul des droits à terme. C'est vraiment ça l'essentiel de l'esprit de cette réforme.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? On entend parler beaucoup de l'âge pivot ou la disparition de la durée de cotisation.
Effectivement, dans un dispositif comme celui-là, on ne peut malgré tout pas laisser la liberté aux individus de prendre leur retraite quand bon leur semble. Bon. Donc il resterait un âge de départ légal minimum pour faire valoir ses droits à la retraite. Dans la proposition de Jean-Paul Delevoye, c'est 62 ans, donc ça resterait l'âge d'aujourd'hui. On ne pourrait pas prendre sa retraite avant, sauf pour les dispositifs carrière longue qui seraient maintenus, peut-être sous une autre forme, enfin l'esprit en serait maintenu. Mais interviendrait une nouvelle notion qui est l'âge pivot. Pour l'instant, la proposition est de 64 ans. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion d'âge pivot ? C'est que vous pouvez très bien prendre votre retraite à 62 ans, aujourd'hui, mais vous voir infliger des décotes parce que vous n'avez pas les 42 annuités et demie de cotisation. Eh bien, dans le nouveau système, il n'y aurait plus de longueur de cotisation définie, comme les 42 ans et demie aujourd'hui, mais il y aurait cet âge de 64 ans qui indiquerait l'âge à partir duquel il n'y a ni décote ni surcote. Donc, quand vous prenez votre retraite à 64 ans, quelle que soit la durée cotisée, on ne vous pénalisera pas pour les années manquantes. Vous ne perdrez que le montant des cotisations que vous n'avez pas versées parce que vous n'avez peut-être pas cotisé suffisamment longtemps. Mais il n'y a pas les 5% de pénalité qui existent aujourd'hui.
Dans l'opinion publique, il y a une cristallisation autour de la question de la retraite par répartition ou par capitalisation. Est-ce que c'est ça qui se joue ?
Alors là, c'est sûr qu'il faut rentrer dans l'analyse et la prospective pour arriver à répondre à cette question. Parce que très clairement, au point de départ, c'est une réforme de la retraite par répartition. Et quand on lit le rapport de Levoye, on a des paragraphes vibrants sur la sécurité sociale, le choix de la mutualisation et de la socialisation, le choix de la répartition contre le choix de l'individualisme, de la capitalisation. C'est très clairement exprimé dès l'introduction du rapport, et sans conteste, il s'agit bien de réformer, avec ce système par point, de réformer le système par répartition. Mais, tout est dans le mais, on sait très bien que si on calibre ou on sous-calibre à cette occasion-là le système par répartition, qu'on lui fait perdre de sa puissance et de sa générosité globale, et que en particulier, comme c'est dans l'idée du gouvernement, on veut maintenir ce seuil de 14% du PIB consacré aux retraites et pas au-delà, compte tenu de l'évolution démographique, on sait qu'on risque d'aller vers des baisses de montant des pensions. Que l'avenir, c'est quand même à une diminution globale du montant des pensions, avec ce plafond psychologique qui est mis à 14%. Dans ce cas-là, on a beau sauver le système par répartition, mais en le sauvant d'une certaine manière médiocrement, ou trop court, on envoie un signal très clair aux uns et aux autres, et à chacun, de dire prévoyez-vous une retraite par capitalisation. Donc je crois que à chaque fois qu'on mégote sur le système par répartition, qu'on le rend moins généreux et moins avenant, évidemment, on encourage ceux qui le peuvent, à se constituer une épargne retraite ou à investir dans l'achat de leur logement pour assurer leurs arrières.
Donc on annonce la réforme comme pouvant rendre le système de retraite plus juste, plus simple, plus équitable. La logique actuelle est plutôt à l'austérité budgétaire et donc fait plutôt dominer des intérêts comptables. La suppression des régimes spéciaux peut aussi être perçue comme un nivellement par le bas. Est-ce qu'on comprend mal la retraite ou les discours, ou est-ce que le gouvernement cache son jeu ?
Ben, on aimerait avoir une réponse claire et convaincue à votre question. Ce que j'ai tendance à en penser, ce serait pas un mal d'avoir cette retraite universelle dans laquelle on est tous logés à la même enseigne, entre guillemets, parce que le fait d'avoir aussi tous ces régimes spéciaux pollue les débats au sein du salariat, chacun soupçonnant l'autre d'être assis sur des avantages, chacun se jalouse, regarde dans l'assiette du voisin, et finalement ça affaiblit les solidarités de l'ensemble du salariat, en particulier évidemment sur ces questions de retraite. Donc on pourrait avoir un regard attendri sur cette proposition qui est de réunifier finalement... Monsieur Macron serait le grand réunificateur du salariat en le mettant complètement sous la même mesure. Mais ce que l'on peut soupçonner aussi, et je le disais à l'instant, c'est que si le système n'est pas assez avenant, ou s'il est fait purement et simplement pour rétablir un équilibre purement comptable des comptes, je crois que le gouvernement va à la catastrophe. Il va absolument à la catastrophe. Et les deux écueils qu'il devrait, et le mot écueil est un euphémisme, mais les deux écueils qu'il faudrait éviter dans cette période-là, c'est précisément ne pas en faire une opération de rééquilibrage, et deuxièmement, assurer la transition. Parce qu'il est impensable que des gens se soient engagés dans des carrières ou des métiers qui ont leurs contraintes, qui ont leur pénibilité, qui avaient leurs évolutions salariales prévues, moins payées en début de carrière, plus payées en début de carrière, une meilleure retraite, etc. Bref, des gens qui se sont engagés dans des carrières avec un package salarial sur toute la durée de vie, leur bouleverser de fond en comble du jour au lendemain ce type de contrat et de projection, c'est quand même impensable, quoi. C'est finalement faire s'effondrer la confiance dans le contrat intergénérationnel qu'on prétend préserver par ailleurs. Donc il va falloir absolument, si le gouvernement veut s'en sortir, soigner la transition et faire en sorte que personne n'y perde dans cette transition. Je ne suis pas sûr du tout qu'il soit parti dans cette direction-là. Pas sûr du tout. Et peut-être même que le gouvernement serait pas mécontent de voir les corporatismes se déchaîner, que chacun se monte les uns contre les autres et que les privilèges croisés, entre guillemets, soient dénoncés pour faire passer sa réforme. Donc, si on est soupçonneux, on peut penser aussi que ce sera une réforme qui, au bout du compte, diminuera la générosité du système et qui, finalement, en profitera pour retailler dans le profilage de certains systèmes de retraite.
Est-ce que ce qui se dessine, on pourrait appeler ça une retraite au mérite, avec pour seul critère du mérite la fiche de paie, et c'est présenté comme quelque chose de plus juste, mais les inégalités salariales avec ce système-là deviendraient de fait aussi des inégalités de retraite?
Incontestablement, si le système est juste avec quatre paires de guillemets, c'est dans le sens où vous l'avez dit. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas très juste. Parce que ça veut dire qu'on va vraiment toucher une retraite qui est strictement proportionnelle à ce qu'on a cotisé. Et donc qui maintient, tel quel, les inégalités salariales de la période de la vie active. Si vous avez gagné deux fois plus dans votre vie active que votre voisin, vous aurez une retraite deux fois meilleure que votre voisin. C'est ça la justice de ce système, entre guillemets. Donc c'est un système, en effet, qui ne corrige absolument pas, dans le fond, les inégalités salariales. Mais il ne faut pas non plus fantasmer celui qui existe. Le système qui existe aujourd'hui, il est déjà quasiment comme ça. Vous avez une bonne retraite si vous avez eu de bons salaires, et vous avez une moins bonne retraite si vous avez eu des salaires bien plus modestes. J'ai tendance à penser que c'est pas là qu'est l'essentiel du problème. Bon, surtout qu'il y aura quand même des mesures de sauvegarde en haut et en bas du système. Enfin, si la proposition de Levoix est acquise, le sort des plus basses retraites pourrait même s'améliorer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Celui des plus hautes retraites pourrait, au contraire, se dégrader si on regarde un petit peu dans le détail les mesures. Donc, j'ai tendance à dire, ouais, c'est un système qui va conserver les injustices, mais ne faisons pas comme si le nôtre aujourd'hui ne les conservait pas déjà.
Un autre point aussi qui peut apparaître problématique, c'est la détermination de la valeur de ce point qui permettra de calculer les pensions de retraite.
Ben c'est sûr que ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est aussi même pas une arrière-pensée parce que c'est explicitement mis sur la table. Le fait d'avoir un système par points rend très facile la correction du montant des pensions en fonction de la conjoncture économique, de la croissance ou des événements démographiques X ou Y. Il suffit d'une décision presque gouvernemental, avalisé par peut-être un grand conseil des retraites, pour modifier la valeur du point. Donc on peut avoir des embardés. Là aussi, la facilité technique n'est pas non plus une facilité politique, parce qu'aujourd'hui aussi, on peut changer les règles d'indemnisation des pensions. On peut, par exemple, oublier de revaloriser les pensions en fonction de l'inflation. Bon. Et alors là, les gens, ils n'y voient que du feu. Enfin, ils mettent du temps à s'en rendre compte qu'on est en train de leur faire les poches. Bon. Peut-être que ce sera plus clair quand on aura à l'ouverture du 20h modification du point de retraite, parce que là, tout le monde comprendra ce que ça veut dire. Bon. Donc, bah, à voir. Bon, des hommes politiques n'auront pas forcément plus de facilité à faire ce que bon leur semble qu'aujourd'hui, à mon avis.
La réforme serait-elle au final un moyen de renforcer une tendance à la désindexation des pensions ?
J'en suis pas sûr, parce que, encore une fois, les choses vont devenir plus claires. C'est-à-dire que si le gouvernement annonce en début d'année le point n'est pas revalorisé, tout le monde va quand même comprendre assez rapidement qu'il manque 1,2% d'inflation ou 1,3% d'inflation ou 1,4% d'inflation. Je pense que ce ne sera pas forcément plus facile de faire le brouillard après qu'aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le risque majeur. Non, ce qui peut paraître aujourd'hui presque hallucinant, c'est que M. Macron avait prévu dans sa campagne de réindexer les pensions sur les salaires. Plus personne n'en parle de ça. Plus personne n'en parle. Non seulement on a l'impression d'une générosité extraordinaire quand on revalorise les retraites seulement de l'inflation, mais il faut savoir que depuis 25 ans, les retraites décrochent par rapport au salaire. Les salaires et le pouvoir d'achat du salaire, lui, il continue malgré tout à augmenter. Alors à des rythmes évidemment très très poussifs, de l'ordre de 0,4-0,5% par an, les bonnes années 1%, mais ce sont des augmentations dont ne bénéficient pas les retraités depuis quasiment 25 ans. Ça veut dire que progressivement, le pouvoir d'achat des retraités décroche par rapport à celui des actifs. Et ça aussi, c'est quand même difficile à vivre. Progressivement, si votre retraite est longue, vous voyez décrocher en termes comparatifs avec les actifs. Donc ça, personne n'en parle plus, mais il y a quand même un enjeu considérable. Est-ce que l'indexation doit se faire par rapport au prix seulement ou un peu plus ? Par rapport à l'évolution du pouvoir d'achat des salaires.
Parce que
finit avec une note tout en douceur, Shadows, par Amine Nolen. C'était Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité, des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà, produit par Micro Rebelle, et vous pouvez l'écouter sur microrebelle.fr, mais également c'est en rediffusion sur Radio PFM à Arras et sur Radio Plus à Douvrin. Merci à eux, à très bientôt.